Bien, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir bravé les éléments pour être là parmi nous ce soir. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Sauvagnard ce soir pour la deuxième conférence de la Société de philosophie de Bordeaux. Je voudrais la présenter simplement en quelques mots. Certains la connaissent peut-être déjà, elle est venue précédemment à Bordeaux, chez Mola. Donc, Anne Sauvagnard est professeure à l'Université de Paris-10-Nanterre. Elle a écrit de nombreux ouvrages et articles autour de la philosophie de Deleuze, hein, Deleuze ou Deleuze et Guattari. En particulier, un ouvrage intitulé « La philosophie de Deleuze » en collaboration, et également un ouvrage en son nom propre, « Deleuze et l'art », hein, il y a 2-3 ans. Hein.
5 ans.
Hein. Elle dirige également aux Presses universitaires de France une collection d'esthétique intitulée « Lignes d'art » en collaboration avec Fabienne Brugère. Et elle est membre du comité de rédaction de la revue « Multitude » et de la revue « Chimère », donc la seule revue deleuzo-guattarienne. Alors, je vais juste dire très brièvement quelques mots sur l'ouvrage qu'elle va nous présenter aujourd'hui, hein, donc « Deleuze, l'empirisme transcendantal », paru aux Presses universitaires de France dans la collection « Philosophie d'aujourd'hui ». Alors, on peut dire que l'idée d'empirisme transcendantal est une idée surprenante, peut-être énigmatique, paradoxale, qu'elle aiguillonne en tout cas notre curiosité. On sait que le rapport à Kant constitue une pièce maîtresse de l'itinéraire de Deleuze, que sa lecture des trois critiques en particulier, centrée sur la théorie des facultés, est un dispositif essentiel de sa propre élaboration théorique. Mais de là à forger le concept d'empirisme transcendantal, il y a un pas, peut-être un saut, que l'on ne peut véritablement franchir sans passer par d'autres grands moments clés de son itinéraire, de son rapport à la littérature, de son rapport à la philosophie, et en particulier de son rapport à l'œuvre proustienne. Et je crois que l'un des moments vraiment forts de cet ouvrage, c'est le passage par Proust, par la recherche du temps perdu, justement, qui aborde en quelque sorte la question de la vérité par le médium de l'art, par le médium des signes, ce qui permet d'échapper, et vous insistez beaucoup là-dessus dans l'ouvrage, sur l'image de la pensée représentative. Donc il s'agit d'une sorte de machine de guerre contre une théorie purement représentative de la pensée. Donc ce qui vous intéresse, me semble-t-il, dans l'ouvrage, c'est que Deleuze offre une tentative pour substituer une logique de la différence à celle de l'identité, des représentations, ce qui incite à passer par les ressources de l'expérience sensible, par les ressources de l'art, et ce qui incite également à utiliser un certain nombre de concepts, donc la différence bergsonienne entre intelligence et intuition, ou encore le concept d'individuation chez Simondon. Il me semble, et je vous laisserai tout de suite la parole, que c'est cette tentative d'éclairer le rapport de Deleuze à la philosophie, à la littérature, qui est l'objet de votre propre montage conceptuel dans l'ouvrage, et c'est de ce montage conceptuel que vous allez nous parler aujourd'hui. Merci d'être là.
Merci à vous, Céline Spector, et merci à la librairie Mola de m'avoir invitée, et merci à vous tous d'avoir bravé les tourmentes, le froid et différentes pannes de tramway, d'après ce que j'ai compris, pour parvenir jusqu'ici. Et gravir en plus les 3 étages, ce qui n'est pas rien, pour écouter une petite conférence, en effet, sur l'empirisme transcendantal, qui est un livre qui vient de paraître, enfin qui est apparu en janvier de l'année dernière, et qui ne porte pas seulement, ou disons, qui ne porte pas sur toute l'œuvre de Deleuze, mais qui porte en réalité sur la première partie de son œuvre. Alors c'est toujours quelque chose d'intéressant et d'assez énigmatique de se demander comment faire pour travailler avec l'ensemble de l'œuvre d'un auteur. En réalité, vous verrez que c'est exactement la même question si on ne travaillait que sur une seule œuvre, voire même une seule page. Mais quand on travaille sur l'œuvre complète d'un auteur, Deleuze contemporain, ou Montesquieu, ou Spinoza, qui vous voulez, la question qui se pose, c'est celle de savoir à la vérité, qu'est-ce qu'on va choisir comme instant décisif dans l'œuvre ? C'est-à-dire, comment va-t-on orienter les diverses péripéties d'écriture et comment va-t-on essayer de les rassembler ? Et je pense qu'on peut dire assez simplement qu'il y a deux manières de pratiquer l'histoire de la philosophie. Une première manière qui serait une manière qui prend appui un petit peu sur, paradoxalement, vous allez voir, sur la biographie du penseur et qui dit machin, Montesquieu, Spinoza, truc, Bergson, Deleuze, a, dans ce livre-là, réussi, en réalité, à nouer tous les fils et à disposer tous les éléments de son système dans un tout cohérent. C'est une vision qui, en réalité, est biographique. Elle est biographique parce qu'elle a tendance à penser la courbe intellectuelle en relation avec une sorte d'individualité personnelle de l'auteur, et qu'elle a tendance, dans la courbe intellectuelle d'écriture, à choisir un seul moment. C'était pas du tout mon intention, et moi je fais plutôt partie de ceux qui sont intéressés par les ruptures et les discontinuités. Et donc, si je me suis intéressée à la première partie de l'œuvre de Deleuze, c'était aussi pour affronter et tâcher d'éviter ces problèmes-là. Comment faire pour parler des œuvres de jeunesse sans dire « Ah bah, c'est pas encore tout à fait ce que ça sera, mais ça sera formidable plus tard », ou bien « C'est déjà tout à fait ce que ça sera, et c'est complètement prémonitoire ». Donc vous voyez, la question qui se pose est une question en réalité d'histoire, de la philosophie, même de philosophie de l'histoire. Comment faire pour penser les débuts, les commencements ? Et voilà donc un petit peu la zone de frottement qui m'a déterminée à faire un travail autour d'un livre qui est le livre que Deleuze publie en 1968 et qui s'appelle « Différence et répétition ». Il est un très beau livre, un petit peu énigmatique et compliqué, mais très beau. Très beau et très résistant, parce que plein de concepts nouveaux qui explosent un peu comme des granules sous la dent et qui précipitent le lecteur ou la lectrice dans de grandes perplexités. Donc, j'avais envie de travailler sur différence et répétition. Mais j'avais envie de travailler sur différence et répétition, au fond, en m'attaquant à un problème qui est celui d'une expression qui apparaît dans cet ouvrage et qui est l'expression qui fait le titre du bouquin, à savoir empirisme transcendantal. Or, ce qui est très étonnant, si vous voulez, c'est que même si on n'est pas très versé en philosophie, on se rend compte que l'empirisme traîne du côté de la terre, de l'ici et du maintenant, c'est ce verre d'eau. C'est quelque chose qui est du côté de notre expérience, tandis que transcendantal, bah, c'est un vocabulaire un peu plus compliqué, un vocabulaire qui a une histoire, qui appartient au lexique de la philosophie, qui a même une paternité bien établie, celle de Kant. Donc transcendantal, ça veut dire tout de suite, si vous n'avez pas fait de philosophie, vous repérez ça comme un terme de philosophie, et vous repérez ça comme un terme de philosophie qui fait partie de l'entourage kantien et qui veut dire, techniquement, chez Kant, condition de possibilité de l'expérience. Alors vous voyez, ça ne peut pas coller, parce que empirisme ne peut pas être transcendantal, et transcendantal ne peut pas être empirique. Donc, en réalité, il s'agit d'un monstre logique. C'est-à-dire, il s'agit de l'accouplement forcé de deux notions qui, dans l'histoire traditionnelle de la philosophie, celle qu'on a apprise à l'école, sont logées dans des endroits qui sont incompatibles. Vous pouvez être empirique, empiriste, vous intéresser à l'empirie, vous pouvez être kantien et aimer le transcendantal, mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est prendre les deux et les ligoter dans quelque chose qui serait l'empirisme transcendantal. J'ai dit que vous ne pourriez pas le faire. Pourquoi donc ? Mais vous ne pourriez pas le faire si vous aviez à cœur de garder le transcendantal dans sa zone d'individuation philosophique chez Kant. Vous ne pourriez pas le faire si vous aviez à cœur de garder les philosophies empiristes dans leur zone de constitution empiriste. Autrement dit, vous ne pourriez le faire qu'à condition de faire quelque chose qui pose à nouveau la même question de l'histoire de la philosophie. Vous ne pourriez le faire qu'à condition de penser, comme le fait d'ailleurs Deleuze, étonnamment, qu'il n'est pas complètement exclu de définir la philosophie non pas simplement par la représentation ou par l'examen des systèmes anciens, mais peut-être bien par une tâche à la fois plus modeste, plus concrète, plus contemporaine, qui consiste, je vois que vous écoutez, à créer des concepts. Et il se trouve que Deleuze, encore jeune étudiant, enfin jeune chercheur, s'est vu proposer par Merleau-Ponty la possibilité d'écrire un article sur un des philosophes qu'il admirait, Bergson, et que cet article était destiné à figurer dans une sorte de catalogue un peu grand public, intéressant, qui s'appelle Les meilleurs penseurs du XXe siècle, ou Histoire de la philosophie au XXe siècle, ou enfin, si vous voulez, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la philosophie du XXe siècle, et qui pour nous est très intéressant parce que comme c'est un volume de 1956, la philosophie qu'on y présente ne ressemble absolument pas à ce que nous, nous estimons être la philo de ces années-là. Et alors des personnes dont nous tenons, que nous tenons en piètre estime, occupent des colonnes entières, et d'autres que nous estimons irremplaçables se voient affublé de toutes minuscules notices. C'est intéressant aussi parce que, voyez-vous, l'image qu'on se fait d'une discipline, à un certain moment, ne correspond pas forcément à l'image qu'on se fera de cette même discipline plus tard. Mais donc, dans ce livre-là, où je nomme Deleuze, écrit sur Bergson, son tout premier article, le tout premier article commence par ces lignes. Un grand philosophe est quelqu'un qui crée de nouveaux concepts. Ces concepts opèrent à la fois un découpage extraordinaire de l'expérience et transforment nos catégories, je cite de mémoire. Donc, de nouveaux concepts, voyez-vous, opèrent un découpage extraordinaire de l'expérience. Autrement dit, ce découpage extraordinaire, il ne faut pas le comprendre comme un découpage mystérieux ou comme un découpage à propos duquel on ne pourrait rien dire. Extraordinaire ne veut pas dire en dehors du discours. Extraordinaire ne veut pas dire au-delà de l'expérience courante, une expérience qui serait réservée aux meilleurs d'entre nous, aux ceux qui ont le cerveau le plus massif. Ou... Voyez-vous, extraordinaire veut dire à la lettre, en dehors de l'ordinaire. Extraordinaire veut dire une expérience qui n'est pas l'expérience ordinaire. Or, si vous avez lu Bergson, vous savez que Bergson définit notre expérience courante comme étant une expérience enchâssée dans les mots du lexique, de telle manière que le mot « vert » correspond à une expérience, mais qui est d'abord une expérience sociale et pragmatique, une expérience utilitaire. Le mot « vert » est comme un petit sachet qui emprisonne des particularités libres de l'expérience pour me les rendre accessibles et maniables, me permettre de boire, vous permettre aussi de reconnaître ce verre que je tiens dans la main, de comprendre les mots que j'utilise et de les comprendre comme des sachets d'expériences préfabriquées qui sont des expériences sociales et donc pragmatiques en vue de l'usage. Et dit Bergson, ce qui compterait mieux, ce qui serait plus intéressant, c'est de penser l'expérience au-delà du tournant, par où l'expérience s'élève au-delà de l'expérience ordinaire, dans ce tournant où elle se fait, disons, expérience non pas inhumaine, non pas ahumaine, mais préhumaine, juste avant qu'on la saisisse dans cette expérience préfabriquée ordinaire. Donc, chez Bergson, les objets de notre expérience courante, cette bouteille d'eau, ce micro, sont, dit-il, les surfaces réfléchissantes de notre action. C'est très beau, assez compliqué, mais très simple, dès qu'on voit un petit peu de quoi il veut parler. Les objets sont les surfaces de notre action, c'est-à-dire les objets sont en réalité modelés par l'action que nous entendons avoir sur eux, ce que vous pourrez comprendre très simplement si je vous dis que, étant une femme, la bouteille d'eau me sert essentiellement à me servir et à boire un petit peu d'eau, mais si j'étais un atome, ce que je suis aussi, mais disons que de façon moins personnelle, si j'étais un atome ou si j'étais une longueur d'onde, la bouteille ne serait pas un obstacle. Donc comprenez bien qu'il n'y a de bouteille qu'à certains seuils et zones d'existence déterminées. De telle manière qu'en réalité, peut-être qu'il n'y a pas bouteille en général, Peut-être qu'il n'y a de bouteille que pour certains, par exemple les humains ou les humaines assoiffées qui sont assises ici à la table de conférence et qui, contrairement à vous, disposent d'une bouteille d'eau. Peut-être donc que tous les objets de l'expérience, bouteille d'eau, mais aussi tous les autres objets auxquels je ne pense pas, sont en réalité objets d'expérience dans une relation où ils sont mis en relation, mis en visée par une certaine zone d'existence, de telle manière que la tâche du philosophe peut bien être alors créer des concepts, ce qui signifie maintenant rigoureusement, première définition, créer des concepts, ça signifie transformer les catégories habituelles par lesquelles nous organisons notre expérience courante, de telle façon que cette expérience elle-même, sortant des rails usuels du monde préfabriqué dans lequel l'intelligence ordinaire nous cantonne, de telle manière que cette existence elle-même puisse nous apparaître sur un mode nouveau, non pas parce qu'elle serait différente, mais tout simplement parce que nous serions sensibles en elle à de nouvelles caractéristiques. Les catégories sont comme un filet. Changez les mailles du filet, vous changez la taille des poissons que vous récupérez dans votre filet, c'est-à-dire vous changez empiriquement les conditions transcendantales de l'expérience. Autrement dit, vous changez ce que vous ramassez dans votre filet et vous changez ce que vous ramassez dans votre filet en fonction de quelque chose qui est bien du transcendantal kantien, légèrement tordu, je l'avoue, du transcendantal kantien, mais qui consiste à penser le rapport entre l'expérience et les catégories de pensée, non pas, comme chez Kant, dans un rapport de production, puisque chez Kant, le sujet transcendantal a une certaine structure, peu importe, mais c'est lui qui, je pense, transcendantal, spontanément façonne, crée, produit les catégories et puis les formes pures de l'intuition grâce auxquelles nous sommes simplement en mesure de nous rendre un monde phénoménal disponible. Enfin bref, je ne veux pas vous embêter avec du Kant à cette heure-ci, précisément quand il fait un petit peu froid et brumeux, mais ce que je veux simplement chez Kant, c'est le sujet qui produit. Et donc l'expérience phénoménale, elle est entièrement réductible, si vous voulez, à ce sujet. Chez Deleuze, non. Chez Deleuze, critique du sujet oblige, j'en reparlerai tout à l'heure parce que c'est un point important de la philosophie française après la Deuxième Guerre mondiale, critique du sujet, le sujet n'est pas le point de départ. Donc chez Deleuze, voyez-vous, les poissons et le filet ne sont pas en relation de subordination. C'est-à-dire les poissons ne sont pas produits par le filet, comme chez Kant. Ça ne veut pas dire non plus que c'est le poisson qui produit le filet, comme disons chez Hume. Comprenez ? Poissons et filets sont produits en même temps. Aïe, aïe, aïe. Poissons et filets sont produits en même temps, c'est-à-dire que ce que c'est que l'empirisme transcendantal, en réalité, deuxième définition, c'est assez simple, l'empirisme transcendantal, c'est à la fois quelque chose qui, en transformant la définition que nous nous faisons de la philosophie, en changeant ce que ça veut dire philosopher, montre que chaque philosophie crée de l'expérience et la transforme. Et du coup, miracle pour un professeur de philosophie, miracle aussi pour un étudiant de philosophie, on peut lire de la philo en se disant « Mais sacré bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce monde incroyable qui est disposé ici dans les pages de Leibniz ?» Ou « Mais qu'est-ce que Aristote va donc inventer ?» Ou « Ah là là, le monde de Platon, quelle chose extraordinaire !» À la vérité, quand vous en êtes là, vous voyez que chaque philosophe, avec sa teneur spéculative, dispose un monde. De telle manière qu'en réalité, chaque logique spéculative produit, à la manière de la science-fiction, quelque chose qui est une expérience entièrement inédite. Personne au monde, même sous la torture, n'aurait pu inventer le monde de Leibniz avec ses monades, qui, chacune dans son petit département, ouvre sur l'ensemble du monde. Personne au monde n'aurait pu inventer la description complètement immanente par laquelle Spinoza explique les passions et les explique d'une manière qui rend tout à fait inutile l'idée d'une finalité morale transcendante pour expliquer, y compris, les affaires humaines les plus graves. Dans la philosophie la plus spéculative, même la philosophie de ceux qui dédaignent l'expérience empirique, s'ouvre un monde de percepts, d'affects, un monde d'une sensorialité qui n'est pas forcément corporelle. Ces philosophes peuvent n'avoir un corps que très très différent d'une autre, ils peuvent avoir un corps composé d'un énorme cerveau, ils peuvent avoir un corps doté d'yeux magnifiques, un corps sans main ou un corps avec beaucoup de pieds. Mais ce sont des corporéités, mais des corporéités de système. Ce sont des types de corporéités, de petites sensorialités qui m'amènent à une troisième définition de l'empirisme transcendantal, qui consiste à s'intéresser à comment nous venons à penser. Comment la pensée surgit-elle? Comment est-ce qu'on pense? Pense-t-on d'ailleurs? On ne pense pas tout le temps. On ne pense pas tout le temps. Et quand on pense, ce n'est pas tout le temps qu'on pense des choses intéressantes. Enfin, peut-être vous, oui, mais moi, non. Donc, on pense pas, peut-être qu'on ne pense pas tout le temps. C'est-à-dire que peut-être que quand on pense, on fait essentiellement deux choses. Une première chose qui consiste à reproduire des choses que l'on sait, et c'est très bien. Ici, c'est le professeur qui parle, donc oui, il faut reproduire, dans une certaine mesure. Et peut-être que quand on pense, on fait aussi autre chose, parfois, pas toujours, de temps en temps. On fait quelque chose qui consiste à être surpris. C'est une vieille définition de la pensée. Au fond, Platon disait la même chose, la pensée est étonnement. Et en disant ça, Platon disait bien quelque chose que Deleuze retrouve, à savoir, nous pensons, non pas quand nous savons, mais nous pensons quand nous sommes arrivés au bout de notre connaissance, quand nous sommes arrivés au terme de notre savoir, nous pensons lorsque toute autre solution épuisée, toute connaissance préalable démentie, nous nous trouvons en face de quelque chose que nous ne savons pas encore définir. Penser, ce n'est donc pas l'épopée heureuse d'un certain soldat français qui partit d'un bon pas et qui, trottant sur le joyeux canasson de la méthode, se disait, écoutez, pour penser, au fond, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une bonne volonté, il faut un certain nombre de méthodes, et hop, en avant, pourvu qu'on continue tout droit, on arrivera bien quelque part. Cette méthode cartésienne, pauvre Descartes, que je traite un petit peu mal, ce grand génie français, pardon, bon, Descartes a beaucoup de qualités, mais il a aussi conception de la philosophie, qui est une conception d'une philosophie par méthode, de telle manière qu'en réalité, les lois de la pensée sont déjà encloses en l'esprit, et que la faculté d'inventer revient à l'usage conforme et correct des règles de la méthode. La faculté spéculative consiste donc à bien user de l'esprit que nous avons en notre possession corporelle, de telle manière que, à la vérité, si nous possédons, comment dire, le mode d'emploi de la machine à laver, et si nous utilisons les programmes correctement, nous pouvons créer du concept. C'est une position méthodologique qui n'est pas celle de Deleuze, et Deleuze pense qu'à cette figure de la pensée, qu'il appelle une figure de la récognition, il faudrait opposer une autre figure de la pensée. Cette nouvelle figure de la pensée va de pair avec la définition que je vous donnais tout à l'heure, à savoir la pensée comme création. Et cette nouvelle figure de la pensée fait de notre pensée quelque chose qui n'est point hardi, solitaire et victorieux, mais quelque chose qui est au contraire tremblant, étonné et sans défense. Cette figure de la pensée est celle d'une pensée muette, devant la nouveauté de ce qu'il y a à penser. Et cette figure de la pensée, Deleuze ne la prend pas dans un livre de philosophie, mais dans un roman, dont Céline a parlé tout à l'heure, à savoir dans la recherche du temps perdu. Or, dans la recherche du temps perdu, qu'on peut lire aussi comme une épopée, celle du roman, de l'écriture, celle de la capacité pour le jeune Marcel de réussir à sortir de ses culottes courtes, de s'habituer au fait de ne plus avoir de baisers du soir et de se mettre lentement, longuement, à la tâche d'écrire la recherche du temps perdu. Ce massif, cette énorme œuvre que Deleuze aime beaucoup, il en tire quelque chose de très aigu et discordant, un petit fragment étrange, à savoir que la mémoire chez Proust est toujours involontaire. Et donc que le romancier n'atteint pas ses réussites au moment où il s'efforce en bon écolier de capter ce qu'il y aurait d'intéressant dans une situation. Proust a lu Bergson, et comme Bergson, il oppose à une intelligence qui serait de l'ordre de cette méthode cartésienne que j'ai bafouée tout à l'heure, quelque chose que Bergson appelle l'intuition et que Proust tord un petit peu en l'appelant non pas intuition, mais mémoire involontaire. Et dans cette mémoire involontaire, il y a l'idée que ce n'est pas volontairement qu'on y arrive. Ce n'est pas volontairement qu'on saute sur le cheval de la méthode, ce n'est pas volontairement qu'on met ses bottes et qu'on attaque, c'est involontairement qu'on est saisi par quelque chose qui résiste. Donc cette figure de la pensée est une figure de la pensée passive. C'est une figure de la pensée passive où la pensée est commise à penser par l'effraction, l'irruption violente d'un signe qu'elle ne comprend pas. C'est une figure de la pensée que Deleuze trouve chez un romancier et dont il se sert pour transformer, dit-il, la manière dont la philosophie pense sa manière de penser. La manière dont la philosophie dit qu'elle pense, c'est-à-dire l'image que la philosophie se fait de la pensée. Donc, chez un romancier, Deleuze trouve de quoi transformer l'image de la pensée que se fait la philosophie. Très intéressant, parce que vous voyez, au fond, ça n'a rien d'étonnant non plus, ça n'est pas de façon réflexive, ça n'est pas en revenant sur sa propre pensée que la philosophie spéculative peut dire ce qu'elle est. Autrement dit, on n'est pas dans l'intériorité et la transparence à soi d'un cogito. Oui, Freud est passé par là. Oui, l'histoire est passée par là. Oui, depuis la Seconde Guerre mondiale, la plupart des philosophes français s'attachent à diluer, à vaporiser l'idée d'un ego cogito. Ils s'attachent à montrer que cette bulle transparente du cogito, cette capacité certaine de soi, cette espèce de conception de la conscience, cette glande surhumaine, est au fond un réquisite de l'âme. Et que si vous pensez la conscience à l'intérieur de vous comme une petite bulle transparente et intime, alors vous n'êtes pas en mesure d'expliquer la manière dont vous devenez des moi, dont vous devenez des êtres pensants, dont vous êtes traversés par des flux qui sont des flux qui ne sont pas des flux individuels mais collectifs, comme par exemple la langue. Donc derrière la critique de Descartes et d'une certaine théologie de l'âme, les penseurs comme Deleuze, mais aussi Foucault, Althusser, l'ensemble de la génération qui commence à écrire dans les années 50, 60, 70, ces générations-là se disent marre de la conscience et ils se disent donc aussi, par conséquent, marre de la phénoménologie, c'est-à-dire d'une certaine tradition à laquelle ils rattachent à certains égards aussi Merleau-Ponty, même si Merleau-Ponty parle aussi de l'histoire et Sartre. C'est-à-dire marre d'une tradition qui essaye d'expliquer les problèmes que nous avons, nous, la génération d'après-guerre, en les réduisant à quelque chose que nous pourrions viser spéculativement dans notre conscience. Autrement dit, marre de la conscience parce que marre de penser que nous pourrions expliquer les phénomènes du monde en les pensant comme des idées auxquels nous aurions accès dans l'intériorité de notre conscience. La conscience n'est plus intérieure à soi. Pas d'intériorité de la conscience. Plus de réflexivité conquérante. Pas de sujet. Pas de sujet fondateur. Il y a du sujet. Il y en a un certain nombre assis là sur des chaises qui écoutent. Il y en a ici des sujets qui parlent. Il y a des corps. Il y a des corps individués. Mais la subjectivité, elle, n'est pas forcément et de prime abord individuelle. La subjectivité, elle, est peut-être aussi de l'ordre du collectif, de l'inconscient. Non, pas la subjectivité. La subjectivité, quand même, elle est individuelle. Attendez, subjectivité, ça ne peut pas être inconscient et collectif. Oui, mais pensez à un phénomène comme la langue, par exemple. Pensez à la langue que je parle là. Une langue, n'importe quelle langue, le français. Est-ce que c'est moi qui ai inventé le français ? Est-ce que c'est vous ? Où est le français lorsque nous parlons ? Mais comment pourrions-nous parler sans français ? Le français, la langue française, mais aussi l'ensemble des modes de subjectivation politique, historique, qui nous façonnent, qui moulent nos inconscients, qui structurent nos consciences, l'ensemble de ces manières de créer des humains ne dépendent pas de conscience individuelle. Le français, c'est pas une conscience. La phénoménologie a du mal à expliquer ce type de phénomène. Les pensées d'Althusser, de Foucault, de Deleuze, puis de Deleuze et Guattari, au contraire, montrent comment le sujet, pensé comme individuel, est produit comme un résultat. Et qu'il est produit comme un résultat, qu'on peut détailler, dont on peut détailler les péripéties, produit comme un résultat. Donc vous, sujet, assis sur vos chaises, vous avez été façonné, vous avez été subjectivé. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de liberté, attention, vous avez tout à fait. Mais vous avez la liberté à partir du moment où vous avez été codé, encodé, par un ensemble de déterminations qui sont des déterminations sociales. Et du coup, le rapport entre l'individuel et le social bascule, car vous n'avez pas un social qui est fait de grains d'individus, comme un caviar fait de grains de caviar, mais vous avez au contraire un social qui produit des individus et dont les individus sujets sont les résultats. La société n'est pas composée d'individus tout faits, sortis victorieux du ventre de leur mère avec leur conscience cartésienne. La collectivité est faite d'individualités qui sont des individualités moulées et modulées avec lesquelles elle interagit. Et donc, du point de vue de l'empirisme transcendantal, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit, ça nous explique pourquoi Deleuze fait appel à quelque chose qui n'est pas de la philosophie pour expliquer quelque chose d'intimement philosophique, c'est-à-dire la manière dont nous pensons. Si la conscience n'est pas transparente à elle-même, si la logique ne s'effectue pas dans la certitude tranquille des opérations de l'esprit, dans une réflexivité neutre, peut-être que la philosophie a besoin de la littérature pour comprendre ses opérations. Peut-être que le rapport entre philosophie et littérature n'est plus un rapport de subordination où le philosophe conquérant viendrait expliquer à la littérature ce qu'elle aurait voulu dire. Peut-être que dans la littérature, non pas nous pensons mieux, mais nous sentons mieux des opérations de pensée, de telle manière que la littérature s'offre comme un laboratoire d'expérimentation pour le philosophe. Et ce laboratoire d'expérimentation, il est peut-être aussi intéressant que le laboratoire d'expérimentation politique de la vie, des sociétés, de leur histoire. Il est peut-être aussi digne d'intérêt que le laboratoire d'expérimentation du scientifique avec ses différentes figures de la raison. Il est peut-être pas inutile de préciser que si la littérature a eu très longtemps un rôle subordonné dans la hiérarchie des savoirs, c'était peut-être parce qu'on la cantonnait à un rôle de fiction imaginaire, une sorte de travestissement docile, une sorte d'amusement un digestif le soir, quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance ni de conséquence, quelque chose qui sert simplement à divertir et à amuser. Mais une chose est sûre, c'est que Deleuze ne voit pas la littérature comme ça. Il ne voit pas l'art sous ce mode divertissant et imaginaire. Il propose de l'art une définition autrement cruelle et étrange. Il dit que l'art est une capture de force. Une capture de force. De telle manière que l'art, comme la pensée, la littérature, comme la peinture, cherche à produire des individuations et donc à transformer notre expérience, mais pas à transformer notre expérience en mettant dans la boîte vide de notre expérience de nouveaux personnages, non plus les personnages de Balzac avec leur chapeau, leur manteau, le père Goriot, mais disons les personnages de Beckett, larvaire, fantomatique, etc. Non, pas simplement en changeant les personnages, mais en changeant la boîte à l'intérieur desquelles les personnages agissent, en changeant l'espace et la temporalité. Les récits sont en vérité des viviers d'individuation qui transforment la manière que nous avons de comprendre ce que c'est qu'être un individu dans une société politique. La littérature a donc un office grave, ludique, mais un office important et autant que la philosophie, mais avec d'autres moyens, la littérature pense. Ça aussi, c'est très, très, très nouveau, parce que la plupart du temps, les philosophes pensent que la littérature pense un petit peu, mais quand même pas aussi bien que nous autres philosophes. De telle façon que nous, les philosophes, on est là plutôt un petit peu pour expliquer ce que les écrivains n'auraient pensé qu'à moitié ou aux trois quarts, mais pas vraiment, vraiment jusqu'au bout. Tandis que chez Deleuze, non, la littérature pense, et même elle peut donner des leçons aux philosophes. Elle peut donner des leçons aux philosophes qui sont des leçons qui concernent, vous l'avez vu d'abord, cette image de la pensée. Et donc, en s'attaquant à Proust, Deleuze se propose de transformer l'image de la pensée. Et moi, en écrivant l'empirisme transcendantal, j'ai voulu, à la manière d'un roman policier, restituer les différentes et violentes péripéties par lesquelles Deleuze monte une sorte de machine théorique, une bombe à déflagration, qui fait exploser un certain nombre de concepts, parmi lesquels les concepts d'identité, d'individualité, les concepts de unité, les concepts qui tiennent la matière de l'expérience entièrement loin et sur un mode étanche, séparé de la pensée. Ce qui m'a intéressé, alors vraiment à la manière du roman policier, c'est de voir comment, d'étape en étape, Deleuze tordait, prenait, prélevait dans l'histoire de la philosophie des fragments et les recadrait. Et là, on entre dans le laboratoire du philosophe. C'est intéressant aussi de voir comment on crée des concepts. Et souvent, on crée des concepts sur le mode de ce que je vous disais au début. L'empirisme transcendantal, c'est d'abord une surprise. C'est un monstre logique. Un monstre logique, c'est une chimère. Une chimère, c'est quelque chose qui n'existe pas dans ce mode de configuration-là. Mais qui existe bien. Qui existe bien, mais qui ne peut pas recevoir de signification à l'intérieur d'un certain champ conceptuel. Une chimère, c'est donc, si vous voulez, plutôt une rotule qui nous oblige à changer de système de coordonnées. D'une certaine manière, ça se passe toujours ainsi quand on pense. Lorsque vous lisez, quoi que vous lisiez, vous faites bien ceci, à savoir, vous procéder à cette individuation de concept. Et dans cette individuation de concept, le milieu dans lequel vous prélevez ce concept et le concept qui résulte de cette opération ne sortent pas indemnes de cette initiative. Lorsque vous écrivez une dissertation sur Kant, vous n'êtes pas tout à fait sûr de parler vraiment de Kant. En réalité, comprenez bien que, bien sûr, vous n'en parlez pas. Enfin, donc moi, quand j'écris sur Deleuze, bien entendu que c'est pas Deleuze qui écrit. En réalité, dès qu'on fait de l'histoire de la philosophie, on est aussi dans cette perspective. Cette perspective, on peut la comprendre de deux manières, et c'est ainsi que Deleuze se l'explique à lui-même au début de sa carrière. D'un côté, il admire Guéroult, parce que Guéroult a une vision très statique et très architectonique. Guéroult, c'est celui qui résout le système en quelque chose qui est sa formule constituante. Et donc, Guéroult a cette capacité, en réalité, de recoder le système. Vous voyez, vous avez le système ici, puis Guéroult, il le recode. Et Deleuze, voulant faire du Guéroult plus que du Guéroult, dans ses premiers livres, qui sont des livres qui s'occupent souvent d'histoire de la philosophie, c'est parce que c'est ma montre, autrement je l'aurais caché loin de moi, mon téléphone. Donc Deleuze, qui veut faire du Guéroult mieux que Guéroult, lui, fait ses premiers livres d'histoire de la philosophie, contrairement à Guéroult qui fait des volumes assez épais. Deleuze, lui, fait des trucs absolument filiformes. Et par exemple, le livre qu'il écrit sur Kant est presque une plaisanterie, parce qu'il réduit les trois formules, il est dans une espèce de petite plaquette, ça fait maintenant le volume, enfin pratiquement le format d'un A4, et encore, il montre que les trois critiques, en réalité, c'est la même chose. Et hop, il a monté une sorte de petite structure qui est la formule constituante du système. Donc là, on est dans quelque chose qui est presque, si vous voulez, l'idée qu'un système, vous allez pouvoir, d'une certaine façon, en extraire le moteur dans une petite pastille conceptuelle, et vous, du coup, vous pouvez jeter le système, c'est du gras, et vous conservez seulement le cœur du système, le petit noyau atomique, et du coup, le système n'est plus dans le système, écrit par Guéroult ou écrit par Kant, que sais-je, il est dans la formule constituante du commentateur. Mais dans cette idée, si vous voulez, de l'histoire de la philosophie, qui réduit les systèmes à sa matrice, c'est très beau logiquement, c'est fort spéculativement, mais se pose une question qui est, alors, dans le fond, tout le système, c'était seulement ceci. C'est-à-dire, tout le système peut être réduit en une formule qui est une formule atemporelle. Un cliché, au sens noble du terme, mais un cliché. Et vous avez donc, si vous voulez, une densité spéculative architectonique, mais qui bat de la même façon à tous les moments du système, et qui donc, d'une certaine façon, est atemporel. Donc Deleuze d'un côté dans une main à Guéroult et dans une autre main il met Nietzsche. Déjà ce couplage est complètement abracadabrant. Or Nietzsche lui n'est pas du tout du côté de cette systématique à la Guéroult. Nietzsche annonce les choses carrément et il dit la seule chose qui compte ce sont les forces qui s'emparent d'un énoncé pour le transformer. Donc Nietzsche n'est absolument pas dans une démarche véritative. Il nous dit pas on va dire ce que dit Kant. Il va dire, ce qui compte, c'est votre rapport à Kant. Il ne dit pas, ce qui compte, c'est chercher ce que dit Kant. Il dit, la seule chose qui compte, c'est au fond, quelles sont les forces qui s'emparent d'un énoncé, d'un sens, et quelle est cette lutte. Et chez Nietzsche, la signification n'est autre que cette lutte. Or, Deleuze, lui, pense Guéroult avec Nietzsche. Donc, la petite pastille, la matrice constituante, elle n'est pas le cœur de Spinoza ou le cœur de Kant. Elle est l'activité, le cœur actif du rapport de Deleuze à Kant ou de Deleuze à Spinoza. Elle est donc à la fois du côté de l'architectonique, mais elle est aussi du côté des forces de transformation. Lire, c'est transformer. Alors vous me direz, mais alors, dans ce cas-là, on peut tout dire ? Est-ce que toutes les interprétations se valent ? Ben, je vous répondrai, ben, regardez bien. Quelles sont les interprétations qui sont intéressantes, selon vous ? Alors vous me direz, ben, c'est celle, par exemple, que j'ai apprise à l'université. Oui, bien sûr. Ou bien c'est celle que j'ai apprise dans tel grand livre sur Kant. Mais oui. Mais si vous vous intéressez de façon plus détaillée à Kant, vous voyez bien qu'il y a plusieurs grands livres sur Kant et qu'ils ne disent pas tous la même chose. Alors, lequel vous allez choisir ? Vous allez choisir celui avec lequel vous formez une perspective la perspective la plus intéressante possible. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut tout dire ? Les étudiants me posent souvent la question, alors est-ce qu'on peut tout dire ? Mais je réponds, mais essayez. Essayez. C'est très difficile de dire autre chose que ce que tout le monde a toujours dit. C'est difficile de ne pas dire la même chose que ce qu'on a entendu. C'est difficile de dire quelque chose qui soit un petit peu différent et qui ne soit pas absolument abracadabrant. C'est extrêmement difficile de transformer un petit peu les idées reçues que nous avons sur les auteurs, y compris les auteurs que nous aimons. Mais c'est ça aussi, lire. Et vraiment, si ce que vous lisez, c'est Kant ou Deleuze ou Nietzsche, et si vous allez écrire, ou vous écrivez déjà, ou vous avez écrit, la seule chose vraiment intéressante, c'est de savoir comment vous avez bougé, comment vous avez tordu, comment vous avez un petit peu fait varier. Et donc la seule chose intéressante, en réalité, c'est de penser aussi l'histoire de la philosophie, non plus comme un système statique, comme ce lustre, comme un réseau. Voyez ? Comme un réseau avec une structure, des propositions, une syntaxe. Comme un réseau régi par des relations qui sont des relations stables et données une fois pour toutes. Le système, en réalité, est un mobile. Il est mobile. Alors, voyez-vous, il faut s'intéresser, c'est ce qu'il y a de très passionnant chez Deleuze, parce qu'il donne des concepts pour permettre de faire ça, il faut s'intéresser au dynamisme spatio-temporel des concepts. Alors, je ne veux pas dire par là que les concepts ont des jupes et qu'ils courent dans la campagne. Mais je veux dire que les concepts, et c'est valable aussi pour toutes les pages que l'on écrit et pour tous les moments du système, les concepts ont des espèces de petites vitesses de dérapage et de freinage, vous voyez ? Et les systèmes sont des mobiles en déséquilibre, ce ne sont pas des mobiles en équilibre. Donc une des choses aussi qui m'intéressait dans ce livre, Empirisme transcendantal, c'était d'essayer de monter avec le plus de rigueur possible l'espèce de mayonnaise théorique qui permet, dans différentes répétitions, un très très bel équilibre, et de montrer en même temps comment la formule se détraque, voyez-vous ? C'est-à-dire, de quoi est-ce qu'on a besoin théoriquement ? On a besoin d'un certain nombre d'ingrédients, par exemple Spinoza, mais aussi Simondon, Nietzsche, Bergson. J'en ai énuméré certains, mais je ne prétends pas du tout avoir la formule complète, la recette statique de différentes répétitions. J'ai donné une certaine lecture de ce qui me semblait être les concepts vraiment les plus importants pour construire mon lustre, différentes répétitions. Mais mon lustre n'est pas statique, vous voyez ? Il n'est pas statique, il vaut pour un certain moment. Alors il vaut à un certain moment parce qu'il permet de capter un petit peu ce qui se passe en amont dans le système. Donc ça, c'est différence et répétition. Puis moi, j'ai essayé de montrer comment chaque bougie et chaque arbre du lustre était pris, où c'était pris, comment c'était pris, comment c'était agencé, comment ça se tortille et comment ça résiste parfois. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de penser le rapport entre différences et répétitions que vous voyez ici et, disons, 1000 plateaux qui seraient plutôt dans la rue sous forme de tramway, par exemple. Ce qui n'est pas tout à fait faux parce que différences et répétitions reste un livre un petit peu pris dans un cadre qui est encore très universitaire. Je veux dire par là, ça n'a rien de péjoratif, hein, moi-même j'en fais partie, mais Deleuze, à ce moment-là, ça lit des bouquins de philo. Ce qui est très bien, mais je veux dire, il parle d'une philo pour philosophe. Alors qu'après, apparition de Guattari, mai 68, changement complet du rapport entre spéculation et pratique. Après 68, on n'écrit plus comme avant. Après 68, on n'écrit plus, seulement écrit à son bureau, assis avec une jolie plume, un doigt et un rouleau de parchemin. Après 68, la philosophie n'est plus dans un rapport de déduction avec le réel. Elle est dans un rapport empirique où elle s'instruit des sciences humaines. Et quel philosophe aujourd'hui pourrait dire, moi, écoutez l'histoire, non, je préfère le concept. Franchement, la psychanalyse, ça m'est égal. Tout ça, c'est complètement faux. Mais la biologie aussi, je m'en tape énormément. L'ethnologie, pas la peine. Pourquoi l'homme en soi est en moi ? Donc, quel philosophe aujourd'hui peut dire « je fais de la philosophie sur un mode seulement spéculatif » ? Vous voyez ? Depuis mai 68, les sciences empiriques ont fait leur apparition. À la vérité, ça avait commencé bien avant, puisque le rapport de la philosophie avec les sciences théoriques était déjà de telle nature. Les sciences théoriques, j'entends par là les sciences de la nature. Bon, donc en tout cas, après 68, plus de philosophie spéculative. Et donc, mon intérêt aussi en écrivant ce livre, c'était de voir, d'avoir dans ma visée le lustre différence et répétition et le tramway 1000 plateaux, dont je n'ai pas parlé dans ce livre-ci, mais qui figurera dans un travail ultérieur. C'est-à-dire la manière dont quelque chose qui fonctionne à un moment du système, différence et répétition, une très belle réussite, en même temps a une durée de vie limitée. Et que c'est aussi intéressant de voir comment les concepts montent et s'agrippent pour former véritablement une architecture théorique, et comment il y a du jeu qui se met en place, comment les dramatisations spatio-temporelles des concepts permettent aussi de penser non plus la philosophie comme une histoire réglée, mais plutôt, et en chacun de ces points, comme un devenir. Voilà, je pense que je vais arrêter là.